Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Cette semaine, c'est une émission très spéciale. Alors que 2025 n'est plus très loin, nous vous proposons une rétrospective de l'année 2024 d'Apple, bien sûr. C'est une année qui a été exceptionnelle à plusieurs égards. Après un long développement, le Vision Pro s'est enfin concrétisé. L'Union européenne a donné du fil à retordre à Apple dans plusieurs domaines et l'IA générative s'est faite une place dans l'iPhone. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder dans ce numéro, sans oublier de revenir sur les autres produits qui sont sortis au cours de ces derniers mois. C'est parti pour le récap 2024 d'Apple. Avant toute chose, toute l'équipe de Mac Génération vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On espère que vous avez passé un joyeux Noël avec ou sans cadeau Apple. Les produits Apple, c'est bien sympa, mais bon, c'est pas le plus important dans la vie non plus. On vous souhaite surtout d'être en bonne santé et entouré des gens qui comptent pour vous. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ?
Salut Stéphane, oui, ça va très bien. Joyeux Noël à tous avec un petit peu de retard. Et toi Stéphane ?
Ça va bien, ouais. Est-ce que tu es prêt pour cette grande rétrospective de l'année 2024 d'Apple ?
Eh ben, allons-y !
C'est parti. Alors, juste un petit avertissement avant de démarrer. On enregistre, pour tout vous dire, cette émission le 19 décembre. Alors, si Apple fait l'acquisition d'Intel ou sort une souris vraiment ergonomique le 25 décembre, ne vous étonnez pas si on n'en parle pas. Voilà. On va commencer ce récap avec le premier produit qu'Apple a lancé en 2024. C'est aussi le produit qui était le plus audacieux puisqu'il s'agit bien sûr du Vision Pro. Alors le lancement du Vision Pro a été un véritable événement. En plus d'être un appareil à la pointe de la technologie, c'est une toute nouvelle plateforme. Ça n'était pas arrivé depuis la sortie de l'Apple Watch en 2015. Avec le Vision Pro, Apple entend guider le futur de l'informatique dans ce qu'elle appelle l'informatique spatiale, où le virtuel s'intègre à l'environnement réel. Est-ce qu'elle a réussi son coup, Christophe ?
Non, pour moi, elle s'est plantée.
Sujet suivant.
Voilà, oui. Non, pour moi, elle s'est plantée dans les grandes longueurs. Peut-être qu'elle aura raison à long terme, mais pour l'heure, c'est un échec. Pas forcément commercial, car ce n'était pas forcément l'enjeu de ce premier modèle. Mais elle a échoué à créer un engouement, à ce que tout le monde ou presque regarde cet objet avec admiration en se disant « Ouais, c'est le futur, je rêve d'en avoir un ». C'est ce qu'elle avait réussi avec le tout premier iPhone, mais là, on n'y est pas. Alors, il faut mettre d'ailleurs les choses au clair par rapport à ce qu'on peut lire parfois dans les commentaires. Dans ses communiqués de presse, Apple met le Vision Pro au même niveau que le Mac, l'iPod, l'iPhone ou l'iPad ou encore l'Apple Watch. Donc, quand on parle d'échec, c'est pas la même chose que quand on parle d'un AirPower qui a jamais vu de jour, d'un premier HomePod qui s'est pas trop vendu ou que sais-je. Pour en venir aux produits, on va dire, emblématiques d'Apple, il y a toujours eu, à leur sortie, un vrai engouement. Le Mac a connu un début en fanfare, même si ça s'est très rapidement gâté ensuite. Là, on a eu une excitation, enfin j'ai envie de dire une demi-excitation, qui a à peine duré le temps d'un week-end.
Il y a une curiosité.
Oui, mais voilà, mais après, ça n'a pas fait des gros titres de la presse. Mais ce qui est étonnant dans cette séquence, c'est qu'Apple n'a même pas fait un début, en début d'année, elle n'a même pas fait un keynote. C'est un événement qui était censé faire date dans l'histoire d'Apple, mais on avait ce sentiment assez diffus qu'Apple n'assumait pas totalement ce produit. D'ailleurs, c'est assez rare, c'est aussi assez unique dans l'histoire d'Apple. On a entendu, alors évidemment, off, et c'était Gurman qui rapportait ça, de dire que, enfin voilà, il y a des grands dirigeants chez Apple qui n'assumaient pas du tout le Vision Pro. Alors, l'autre problème avec le Vision Pro, et c'est très symptomatique de l'ère Tim Cook, ce sont les usages. L'informatique spatiale, c'est super. Mais c'est vrai que lorsqu'on utilise un Vision Pro, on trouve ça, enfin, c'est une expérience très intéressante.
Ouais, ça, c'est
mais pourquoi faire ? Ouais, clairement. Hein, c'est... Mais pourquoi faire ? Apple n'a jamais vraiment répondu à la question. Et quand elle présente des cas d'utilisation, ce sont surtout des usages pour le grand public qui ressortent. Des usages grand public pour un appareil professionnel qui s'adresse aux professionnels qui s'appelle Vision Pro. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans l'état des choses, on a l'impression d'avoir un DTK dans les mains, une sorte de prototype. Mais alors le problème, c'est que lorsqu'on entend les premiers retours, eh ben, on s'aperçoit que le Vision Pro, comme beaucoup de casques VR, prend la poussière chez de nombreux utilisateurs. Et les développeurs sur lesquels Apple misait beaucoup, ben, ils n'ont pas forcément répondu présent. Alors voilà, on est obligé de le dire, Apple a raté son entrée en matière. Maintenant, elle va devoir ramer fort pour rattraper le coup. Alors on ne sait pas si ça sera l'année prochaine ou en 2027 avec un nouveau modèle.
Et surtout un modèle moins cher. Ça serait, je pense, la clé pour donner un vrai coup d'envoi au Vision Pro.
Je ne sais pas ce qui manque. Moi, je pense qu'il manque quelque part. Enfin, Je sais pas s'il manque pas une killer app malgré tout. Enfin, c'est de se dire, parce que même si on arrive avec un Vision Pro, on va dire à 1 500 ou 2 000 euros, alors évidemment, il y a plus de curieux qui vont pouvoir se l'acheter. Mais il y a un vrai problème de positionnement. Et ce qui est assez étonnant dans cette affaire avec le Vision Pro, c'est qu'on sait pas où Apple veut aller. On sait pas vraiment où Apple veut aller. On dit oui, mais c'est un produit un petit peu, comment dire, intermédiaire, et qu'à la fin ça donnera des lunettes. Mais alors, est-ce que le Vision Pro, c'est aussi peut-être le super ordinateur d'ici quelques années? Mais dans ce cas-là, si on peut reprendre une analogie, si le Vision Pro c'est l'iPhone, alors il a manqué l'iPod au Vision Pro.
Alors, la deuxième mission qu'Apple s'était fixée en 2024, c'était de rattraper son retard sur ChatGPT et les autres IA génératifs qui cartonnent depuis quelque temps. Après son annonce à la WWDC 2024, Apple Intelligence a été lancé à la rentrée. Donc Apple Intelligence regroupe entre autres des fonctions pour résumer ou réécrire des textes, gommer des éléments indésirables sur les photos, générer des images ou encore accéder facilement à ChatGPT. L'intérêt particulier, c'est que ça s'intègre très bien à iOS et macOS et qu'il y a un mode de fonctionnement hybride, c'est-à-dire que les opérations les plus simples sont exécutées en local. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut un appareil assez récent, assez puissant. Et les opérations complexes sont exécutées sur des serveurs. Est-ce qu'Apple est revenu dans la course à l'IA avec ce dispositif maison?
Pas facile à dire. Alors, d'un point de vue stratégique, en 2024, pour moi, il y a eu trois événements majeurs. Enfin, je parle pour Apple, hein, bien évidemment. Le Vision Pro qu'on a évoqué à l'instant. Apple Intelligence, bien évidemment. Et il y a aussi l'arrêt des travaux relatifs à la voiture du futur, après avoir quand même dépensé pas moins de 10 milliards de dollars.
Le projet Titan.
Voilà, alors si je parle du projet Titan, c'est que quelque part, les deux événements sont malgré tout assez reliés. La voiture autonome, c'est presque avant tout que de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'ingénieurs du projet Titan travaillent désormais sur Apple Intelligence avec l'idée de rattraper le temps perdu. Et voilà, et donc c'est d'ailleurs assez marrant parce que avec le Vision Pro, Apple essaie de déblayer un nouveau terrain où elle est quand même relativement en amont. Il n'y a pas encore, même s'il y avait déjà des acteurs sur ce marché-là, il n'y a pas par exemple un engouement comme il y avait avec le BlackBerry au milieu des années 2000. Là, dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, elle est plutôt en retard. C'est pas forcément d'ailleurs une position qui lui est très très déplaisante. Hein. Ça lui est arrivé d'être en retard sur certains secteurs, et puis après de mettre les bouchées doubles et de finir en tête du peloton. Alors pour répondre à ta question, j'ai un peu de mal à dire si Apple est revenu dans la course. À l'heure actuelle, je répondrais plutôt non parce que le lancement de Apple Intelligence est trop morcelé.
Oui, c'est très progressif.
Voilà, ça fonctionne sur certains modèles d'iPhone, dans certaines zones géographiques, avec certaines langues. Les fonctionnalités arrivent les unes après les autres. Voilà, donc voilà. De plus, de ce que l'on entend, les technologies à l'œuvre dans Apple Intelligence, pour les résumer notamment, elles sont assez globalement en retard par rapport à l'état de l'art. Et ça, c'est aussi un problème qu'Apple va devoir gérer avec l'intelligence artificielle générative, c'est qu'il y a des modèles qui évoluent en permanence. Et voilà, ce qui a été fait il y a 3 mois, alors j'exagère quand je dis que c'est obsolète, mais voilà. Alors donc, la machine Apple est en train de se mettre en route. Cupertino a déjà montré son savoir-faire en matière d'intégration, ça c'est indéniable. Je pense que de toute façon ça a commencé, mais que 2025 sera l'année de l'IA chez Apple, et de ce point de vue j'attends avec impatience la WWDC. Je pense qu'à ce moment-là on pourra vraiment faire un bilan, parce que j'espère donc non seulement qu'Apple aura montré son retard, mais qu'elle aura aussi pu mettre en exergue certaines idées et dire regardez nous ce qu'on fait, c'est quand même pas mal.
Oui, c'est ça, parce qu'en 2025, donc en avril 2025, Apple Intelligence sera officiellement disponible en Europe et en français sur iOS. Et puis l'année prochaine aussi, la plupart des produits là seront compatibles avec le système. Ouais.
C'est un peu comme si on était en bêta et que voilà, en avril 2025, avec une ouverture qui commencera vraiment à être large, on pourra dire ouais, voilà, on tient Apple Intelligence 1.0.
C'est ça, ouais. En parlant de l'Europe, il y a autre chose qui a demandé beaucoup de temps à Apple cette année. C'est pas un produit, c'est le DMA. C'est en effet cette année qu'est entré en vigueur le règlement européen sur les marchés numériques. règlement qui a obligé Apple à opérer des changements historiques dans son écosystème. On peut maintenant télécharger des applications iOS depuis des boutiques tierces, comme l'Epic Game Store. On peut même supprimer de son iPhone Message ou Safari, c'est possible, oui. Et Apple a également dû présenter un écran de sélection du navigateur par défaut à tous les utilisateurs européens. L'iPhone est-il devenu une plateforme vraiment plus ouverte à la concurrence grâce au DMA ?
Alors, oui, clairement. Mais après, ce n'est pas non plus le grand soir. C'est ça qui est assez étonnant. Je vais te poser une question. Est-ce que tu as un App Store tiers installé sur ton iPhone ?
Alors, j'en ai plusieurs. Je les ai même tous. Mais c'est, ouais. C'est pour mon
toi,
travail de journaliste.
Pour
Magenera. e-génération. J'ai l'Epic Game Store, Aptoide, Setapp, tout ça. Après, celui que j'utilise vraiment, c'est l'Epic Game Store. Parce que, bah, évidemment, tu as Fortnite et Fall Guys dessus. Ça permet d'avoir les deux applications là, mais sinon les autres je les utilise pas vraiment.
Ça reste pour le moment malgré tout quelque chose d'assez confidentiel. Moi je suis assez étonné que alors il y a eu l'arrivée assez tardive d'Epic Games qui est un petit peu en train de changer la donne, mais pour l'instant il y a quand même des acteurs qu'on attendait ou qu'on espérait qui regardent ça avec
circonspection.
Circonspection, j'avais juste depuis le début en fait. Mais
comme Microsoft,
voilà.
Oui, Microsoft qui met un peu de temps à venir. Ouais.
Voilà. Mais après, c'est indéniable que iOS est devenu une plateforme où l'utilisateur peut vraiment imposer ses préférences. Navigateur, web, moteur de recherche, app par défaut. Ça, c'est vraiment des petits pas dans la bonne direction pour les utilisateurs. Il y avait déjà certains fragments qui étaient disponibles dans iOS depuis quelques temps. Mais tout ça prend forme. Alors, c'est vrai que bon, pour les App Store tiers, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment un chantier au long cours. Mais mon petit doigt me dit aussi que la commission est loin d'être satisfaite des changements apportés par Apple, qu'on va dire qu'ils sont sans doute un peu, enfin beaucoup trop conservateurs, et on risque d'en entendre beaucoup parler dans les mois à venir. Alors on le sait, l'Union européenne a mis au point tout un arsenal répressif avec de grosses amendes, notamment en cas de non-respect de ces législations. Mais en même temps, il faut aussi prendre en compte d'autres aspects extérieurs. Il y a par exemple un certain Donald Trump qui va faire son retour à la Maison-Blanche et qui pourrait lui aussi faire pression sur l'Union européenne pour que celle-ci arrête d'embêter ses protégés. Et Apple fait partie de cela. Donc voilà, quand la géopolitique entre en jeu, parce qu'il y a des enjeux qui sont autrement peut-être plus importants que le DMA, l'avenir nous réserve des surprises, c'est certain.
Et d'un côté aussi, Apple est poursuivi aux États-Unis en matière de concurrence, donc même sur son marché, ça pourrait aussi pas mal bouger en matière d'ouverture.
Ce qui serait bien, mais alors c'est complètement utopique, mais après tout, on est entre Noël et Nouvel An, donc on a le droit. c'est que tous ces gens-là se mettent autour d'une table, discutent, réfléchissent, et qu'au lieu de s'envoyer des avocats et ce genre de choses, qu'on arrive à une solution, on va dire, qui arrive à satisfaire tout le monde. Parce qu'il y a certaines avancées qui sont très appréciables dans le DMA. Il y a d'autres idées où des fois on se dit, l'Europe va vraiment dans ces détails-là, est-ce que c'est important ? Et voilà, mais moi ce qui me perturbe, ce qui m'embête, c'est qu'on est vraiment dans une logique de confrontation et je pense que c'est bénéfique pour personne à la fin.
On va parler maintenant des nouveaux produits, enfin le Vision Pro en était un, hein, mais disons qu'on va parler des produits historiques. Alors concernant le Mac, il y a eu en mars les MacBook Air M3, puis en novembre les premiers Mac M4, à savoir l'iMac, les MacBook Pro et le Mac Mini. Alors ce sont toutes de très bonnes machines, mais je pense que la star de l'année, ça a été le Mac Mini M4.
Je trouve que le Mac a fêté de fort belles manières son 40e anniversaire, c'est vraiment le bel âge. 2024 a été une super année pour le Mac. Déjà d'ailleurs, on remercie Apple Intelligence pour avoir contraint Apple à mettre d'office 16 Go de RAM sur l'ensemble de la gamme.
Ça c'est vraiment une bonne surprise, enfin c'est pas vraiment une surprise, mais c'est un effet bénéfique d'Apple Intelligence pour tout le monde. Ouais.
Alors voilà, je pense que notre prochain combat en 2025, c'est de faire en sorte que 512 Go devienne la norme sur les Macintosh entrée de gamme.
Ouais.
Non, mais je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour posséder un Mac. On vit une période géniale. Sequoia n'apporte peut-être pas d'immenses nouveautés, mais sa sortie n'a pas non plus suscité de problèmes majeurs. Et puis, il y a des petites nouveautés qui sont malgré tout sympas. Je pense notamment aux gestionnaires de mots de passe. C'est une vraie avancée pour le commun des mortels. Je pense que c'était vraiment la gestion des mots de passe de manière générale est sans doute l'une des choses qui embête le plus les utilisateurs lambda. Mais alors, pour revenir au Mac, ce sont des machines toujours plus polyvalentes, plus puissantes, plus stables, avec une super autonomie sur les ordinateurs portables. Et la puce M4 est pleine de promesses. Donc voilà, on vit vraiment en ce moment, depuis quelques années, avec le passage à l'architecture Apple Silicon, une renaissance du Mac. Et voilà, il faut tout simplement en profiter.
Absolument. Ouais. Pour l'iPhone, j'ai envie de dire que ça a été une année sans surprise. Hein. On a eu donc les iPhone 16 et 16 Pro en septembre. Finalement, le fait le plus marquant pour l'iPhone cette année, je me demande si ce n'est pas la fin de la commercialisation de l'iPhone SE et de l'iPhone 14 dans l'Union européenne.
Alors, clairement, c'est une année de transition. L'iPhone Air et les iPhone 17 laissent penser que 2025 sera une année plus excitante.
Ouais.
Alors, tu utilises le terme sans surprise, c'est aussi sans doute parce qu'on est européen. Donc, l'axe d'Apple cette année, quand même, autour de la... ça a été Apple Intelligence. Du fait qu'on n'a rien eu, c'est sûr qu'on s'est senti un petit peu. On n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.
Même
c'est un
si,
peu excessif.
Faut quand même dire que l'iPhone 16 en particulier est super bien. C'est pas question de dire que c'est un mauvais iPhone. C'est un très bon iPhone, mais voilà, il n'y a pas eu de grosses surprises, de changement de design important, quelque chose comme ça.
Du tout. Mais justement, j'allais y venir. Parce que donc Apple a quand même tout de même essayé de faire évoluer son smartphone. Alors l'année dernière, on avait quand même eu le passage à l'USB-C, qui avait été l'une des nouveautés attendues de longue date. Et cette année, donc, on a ce bouton, alors qu'Apple nomme commande de l'appareil photo. Alors, je vais être le seul à pas l'avoir testé encore. Donc, mais de ce que j'en comprends, c'est pas une réussite totale.
Ouais, non, vraiment pas. Ouais. À chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, on a parlé encore avec un lecteur patte de chat. Je le salue, qui a un iPhone 16 Pro Max et il a pas réussi à utiliser ce bouton-là à l'entrée dans son quotidien, quoi.
Mais appeler des boutons, de toute manière, ça a toujours été compliqué. Alors, on se souvient des boutons sur les souris d'Apple. Le bouton de l'Apple Watch Ultra, c'est une très bonne idée à la base, mais ce n'est pas une réussite. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est une sorte de fatalité chez Apple. Mais j'espère, en tout cas, l'idée à la base, en tout cas, me paraît vraiment bonne. Alors, je ne sais pas s'ils arriveront à régler ça d'un point de vue logiciel ou si il faudra attendre un nouvel iPhone et qu'il change notamment la position du bouton et d'autres choses. Mais voilà, l'idée en tout cas à la base est intéressante.
Du côté de l'iPad, il y a eu pas mal de mouvements. Il faut dire qu'il n'y avait eu aucune nouvelle tablette en 2023. Alors, au printemps, ce sont les iPad Air M2 et les iPad Pro M4 qu'ils ont sortis. Au même moment, Apple a retiré de la vente l'iPad 9, qui était le dernier à avoir un port Lightning. Et puis en octobre, Apple a lancé un nouvel iPad mini. Ça a été plutôt une bonne année pour l'iPad.
J'ai du mal à m'enthousiasmer pour l'iPad.
Ah
et
ouais
pourtant, j'ai préparé cette émission avec une tablette. Voilà.
Et pourtant, l'iPad Pro a été le premier à avoir une puce M4. C'est assez exceptionnel. Avant les Mac, on ne s'y attendait vraiment pas. Et c'est lui qui
c'est
a
clair, et...
une puce M4. Ouais.
Et Apple fait des efforts, et elle fait des efforts sur le plan logiciel avec ses applications professionnelles qu'elle améliore et que voilà, c'est indéniable. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de cercle vicieux avec l'iPad. Alors tout d'abord, il y a des vases communicants. Hein. Lorsque le Mac était à la cave au milieu des années 2010, l'iPad avait une cote d'enfer. Je me souviens de ces nombreux papiers qu'on lisait, qu'on a même fait. Hein. J'ai remplacé mon Mac par un iPad, c'est génial, patati patata. Et puis... il y a quand même deux choses qui ont fait du mal à l'iPad, quelque part. Alors, le premier, c'est le passage du Mac à l'architecture Apple Silicon. Et là, l'iPad a tout d'un coup perdu un énorme avantage, notamment l'autonomie et la puissance pour certains traitements. Et ce plafond de verre logiciel relatif à iPadOS, on n'en sort pas. Je ne veux pas d'un iPad qui ressemble à un Mac, mais je ne supporte pas qu'il soit artificiellement bridé. Pourquoi je ne peux pas virtualiser un Mac ou enfin macOS ou Windows avec un iPad, par exemple? Alors, non seulement on a l'impression que l'iPad est un petit peu bridé, mais le souci, c'est que par rapport à la grande époque, un iPad, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher.
Oui.
Si vous voulez acheter un iPad un peu sympa avec des accessoires, on est facilement à 1000 euros, alors qu'à une époque, on s'en sortait pour moitié moins ou presque. Alors, cet état de la plateforme, moi, je le trouve, je trouve malgré tout assez frustrant. Et si les ventes sont reparties en milieu d'année, Je suis pas certain que ce soit un phénomène de long terme. Et puis voilà, enfin pour finir, il y a quand même une petite déception me concernant, c'est l'iPad mini. J'ai rien contre à ce qu'Apple change ses produits tous les 3-4 ans, mais dans ce cas-là, quand Apple fait une mise à jour, autant faire les choses bien. Là, c'était quasiment un non-événement, quoi.
Ah bah c'était juste une mise à niveau pour Apple Intelligence, hein. C'était vraiment ça.
Oui, et je pense qu'il n'y aurait probablement pas eu de mise à jour s'il n'y avait pas eu Apple Intelligence.
Mmh, clairement, ouais. Enfin, dans les wearables, Apple a lancé une Apple Watch Series 10 plus fine et des AirPods 4 avec réduction de bruit active. Ce sont des mises à jour qui font progresser de manière assez significative l'Apple Watch standard et les AirPods standard, non?
Oui, mais dans ce cas, moi, j'attends plus 2025 car je suis plus client des AirPods
Des
Pro et d'Apple
pros,
Watch Ultra.
ouais.
Ouais,
Je
Non,
m'attendais à cette
mais alors,
réponse.
l'Apple Watch Series 10, pour moi, c'est. On va pas dire que c'est un petit mystère, mais sur le papier, c'est un très chouette modèle avec certaines innovations, d'ailleurs, que j'attends avec impatience sur l'Ultra. Ceci dit, j'ai pas l'impression que ce modèle ait suscité un engouement exceptionnel. J'attends les trimestriels d'Apple pour qu'on ait une idée précise sur le sujet. Je me demande si la montre d'Apple, elle n'est pas victime quelque part de l'iPhone X. Quand Apple avait présenté l'iPhone X, il y avait un vrai effet waouh. Et je pense qu'on est peut-être nombreux à se dire, ouais, avec l'Apple Watch Series 10, ils vont vraiment faire un gros, gros, gros truc. Et alors, voilà, enfin, je me répète, c'est vraiment un chouette produit, mais j'ai l'impression qu'il manque la petite étincelle. Mais peut-être que je me trompe, hein, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Ah là, l'Apple Watch Series 10, je la trouve quand même très sympa pour l'avoir portée. C'est vrai que je me demande si maintenant, si je devais choisir entre une Series 9 et une Series 10, je ne prendrais pas plus la Series 10, même sachant qu'elle est plus chère. Mais je trouve ça très appréciable, sa finesse. Tu ne le vois pas forcément sur les images comme ça, mais c'est en le portant que tu le ressens le plus. Et c'est très pratique même quand tu as des manches, en fait, l'Apple Watch coulisse mieux sous la manche. Et en fait, c'est une amélioration qui compte. Ouais.
Donc ça, et alors les AirPods 4, pareil, super produit, mais je trouve qu'ils ont tendance à relever à quel point les AirPods Pro, 2 ans après leur commercialisation, bah, ça reste le top du top. Parce que les AirPods 4 ont sur certains points rattrapé une partie de leur retard, mais au final, on a d'ailleurs pu le voir au moment du Black Friday, pendant toutes ces fêtes de fin d'année, bah, le produit qui s'arrachait, et bah, ce sont les AirPods Pro et pas les AirPods 4. D'ailleurs, j'attends avec impatience la prochaine version qu'on nous promet a priori pour l'année prochaine. À mon avis, je serais assez persuadé qu'ils vont être encore un peu plus chers, mais je suis aussi impatient de voir ce qu'ils vont faire au niveau de tout ce qui est santé.
Pour conclure, j'ai fait la liste de tous les produits qui n'ont pas été mis à jour cette année. Alors, il n'y a pas eu de nouvelle version du HomePod, de l'Apple TV, du Mac Studio, du Mac Pro, de l'iPhone SE, de l'Apple Watch Ultra et de l'Apple Watch SE. J'espère que j'ai oublié personne. Pour découvrir tout ce qu'Apple nous réserve pour 2025, je vous invite à écouter l'épisode spécial de Kernel Panique concocté par Félix qui sera disponible prochainement.
Excuse-moi, mais je crois que tu as oublié la chiffonnette. Enfin, il y a une sorte de mise à jour qui n'était pas une mise à jour. Enfin, je sais pas.
Ah. C'était juste un nouvel emballage pour la chiffonnette en fait. C'était une fausse alerte, c'était simplement un nouvel emballage pour la chiffonnette. Ouais. Eh bien écoute, Christophe, je te souhaite une très bonne fin d'année 2024.
Eh ben, très bonne fin d'année à toi également et à tous ceux qui nous écoutent. Et on va se reposer un petit peu et on se retrouve avec le plein d'énergie en début mi-janvier.
C'est ça, ouais. On vous souhaite à tous encore d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve très bientôt. Salut à tous!
Mais je crois qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour posséder un Mac. On vit une période géniale. Bon, Sonoma, ce n'était pas la révolution, mais sa sortie n'a pas non plus.
Sequoia, je pense.
Oh,
Sequoia.
oui, j'ai du mal.
Ça ressemble à l'autre, alors oui.
Non, monsieur, je recommence parce qu'on va encore se foutre de moi.
On garde, on garde.